Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans quelques jours va s'ouvrir à Madrid la COP25, un rendez-vous aux airs de Chant du Cygne qui finit par laisser dubitatif, voire en colère tout à chacun. La solution viendra d'en bas, semble s'égosiller presque en même temps le Festival Alimentaire, Festival International, qui travaille à sensibiliser l'opinion publique sur ce que nous mangeons dans nos assiettes, ici en Occident. À les entendre du coup de fourchette éthique et responsable au réchauffement climatique, il n'y aurait qu'un pas, explication. Zoom sur le festival alimentaire, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, pour nous en parler, il y a du monde. Marie Prinet, vous êtes chargée de mission pour le CROSI, collectif régional des organisations de solidarité internationale pour l'Occitanie. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Jacques Millot, vous êtes membre du CCFD Terre Solidaire Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour.
Estelle Ekman, vous êtes responsable de projet pour Ressources Humaines Sans Frontières. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous rejoindra un petit peu plus loin Maëlys Loiseau un petit peu plus tard, chargé de développement pour OECO Crédit Méditerranée et Kerfala Camara qui est entre autres entrepreneur et meilleur manager africain 2014 qu'on essaiera de joindre un peu plus tard parce qu'on a des petits soucis de connexion avec lui. On va commencer par faire une, on va dire, de la pédagogie. Alors ceux qui suivent pied à pied ce sujet se diront encore une fois, mais on imagine que si la cause écologique n'avance pas tant que ça, c'est que comment tout le monde n'est pas encore sensibilisé. Alors il y a des actualités, entre autres donc la COP25 à Madrid qui est prévue donc début décembre. C'est du 12 au 13 décembre prochain. Les uns les autres, on va commencer par vous, Jacques Millot. Vous attendez ce rendez-vous à chaque fois avec espoir ou vous dites bon, de toute façon c'est pas là que ça va se faire?
Oui, bien sûr, c'est un sujet qu'on entend depuis maintenant pas mal d'années. Alors très concrètement, là, ces jours-ci vient de sortir un rapport de l'ONU et non pas du GIEC, donc c'est un peu différent, qui montre dans la presse nationale et dans les autres pays d'Europe bien sûr que les engagements qui avaient été pris déjà il y a quelques années à la COP21 à Paris en 2015 sont absolument pas respectés, puisque l'ONU dit dans son rapport que l'augmentation des gaz à effet de serre depuis 2008, donc ça fait maintenant 11 ans, contrairement à tous les objectifs que les pays s'étaient donnés, a continué d'augmenter. Alors j'ai retenu le chiffre ce matin en lisant la presse, 1,6%. Et évidemment, ça ne va pas du tout dans le bon sens, et que tous les discours du GIEC en particulier, mais pas seulement, des associations qui militent pour le climat, sont battus en brèche, et que finalement la population française, entre autres, mais pas seulement, n'est pas encore complètement convaincue qu'il faut changer à la fois son mode d'alimentation, on va en reparler, mais aussi son mode de déplacement, son mode de chauffage, etc. etc.
Alors il y a une autre étude comme ça que j'ai vue, c'est un appel qu'ont lancé 11 000 scientifiques, rien que cela, c'était début novembre, c'est paru aussi dans la presse française, de 153 pays qui aussi tiraient à nouveau la sonnette d'alarme. La planète Terre fait face à une urgence climatique, laissant entendre que les souffrances à venir allaient être importantes. Mais ma question précise, c'était, vous qui êtes des militants associatifs, est-ce que ces grands rendez-vous, en fait, vous continuez à y croire et avoir leur nécessité, ou est-ce que, dans le fond, vous dites que c'est pas là que les choses se décident, Jacques Millot?
Je pense qu'on n'a pas le choix. Les gouvernants sont interpellés constamment et tous les jours, de plus en plus, par toutes les associations environnementalistes et autres. Et on voit bien que si les citoyens à la base, en particulier en France, mais encore une fois pas seulement, ne se prennent pas eux-mêmes en main pour changer un certain nombre de comportements, on n'y arrivera pas, quoi. Le réchauffement climatique, il est déjà commencé. La planète, depuis un siècle, s'est réchauffée de 1 degré. On nous en annonce 2, 3, 4, voire plus, si les modes de consommation, les modes de déplacement, etc., les modes d'alimentation ne changent pas, et donc on court effectivement à la catastrophe, et les événements récents montrent une fois de plus que les changements climatiques affectent aussi la France. Il suffit de voir les derniers événements dans le sud-est de la France en particulier, et tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que ces événements-là se répètent d'année en année, de plus en plus souvent et avec de plus en plus de force.
Il faut rappeler entre autres donc un des objectifs de la COP21, donc le fameux accord de Paris, c'était de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici l'horizon, je crois, 2030. Et pour l'instant, tout ce que disent ces études qu'on a citées, c'est que le compte n'y est pas. Alors sur cette question, Marie Prinet, vous, je ne sais pas comment vous vous positionnez à titre personnel, vous êtes quand même engagée dans votre vie professionnelle. Vous dites aussi à quoi bon tous ces sommets?
Je pense que je rejoins Jacques aussi, c'est-à-dire que avec notamment le festival alimentaire, on est sur, on est en lien avec les jeunes et on, je trouve que c'est vraiment hyper important la pédagogie. Se dire comment on rejoint d'autres personnes qui sont aussi éloignées de toutes ces questions-là, c'est-à-dire qu'on voit quand même dans notre façon de vivre aujourd'hui que l'écologie, etc., ça rentre quand même dans les mœurs, le changement de pratique, etc. Donc oui, forcément, ma vie personnelle rejoint ma vie pro. Après, on est comme tout le monde, je pense que les changements, ça se fait petit à petit. Mais je pense que c'est vraiment en conscientisant un peu tout le monde et puis en se disant qu'à notre échelle, on peut agir.
Alors il y a d'autres actualités, je voulais vous faire réagir un petit peu là-dessus, c'est les fameux décrocheurs. Donc ce sont un certain nombre de militants qui décrochent aux quatre coins de la France les portraits du président de la République, donc d'Emmanuel Macron. Il y a des décrocheurs dans le sud-ouest, dans le Gers récemment, et puis à Toulouse, devait être jugé autour du 20 novembre dernier, donc trois militants d'Action non-violente COP21 qui encourait donc des peines, je crois, de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. C'est pareil, qu'est-ce que vous pensez de cette vague de fond, cette jeunesse qui commence à prôner la désobéissance civile, Jacques Millot?
Ah ben moi, je pense qu'effectivement, tous les moyens sont bons pour eux, surtout quand ils sont non violents. Hein. Je veux dire, ça n'a pas porté atteinte à personne. Et donc, toutes ces actions, et il y en a de nombreuses, hein, pas seulement celles-là, organisées par les jeunes aujourd'hui, et il y en a de plus en plus en France et ailleurs, hein, dans le monde. Et en Europe, il suffit de penser aussi à la jeune Suédoise, hein, qui est allée partout prêcher la bonne parole à
Greta
ce niveau-là.
Stenberg, oui.
Greta Stenberg. Et donc, voilà, je pense que tous ces jeunes-là, aujourd'hui, disent à leurs parents et leurs grands-parents qu'il faut absolument changer de comportement et qu'on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Et je pense que les jeunes ont parfaitement compris ça aujourd'hui.
Maëlys Loiseau, Estelle Ekman, est-ce que vous êtes sensible à ce type d'action? Vous êtes peut-être la plus jeune autour du plateau. J'ai souvenir comme ça d'une récente émission, on avait un jeune de Youth for Climate qui était présent, qui semblait très décidé. Est-ce que c'est un peu le rendez-vous de votre génération que d'aller jusqu'à ces actions et jusqu'à cette désobéissance civile? Quel est un peu votre point de vue?
Je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que c'est des modes d'action non violents et hautement symboliques et donc qui ont une portée intéressante. Et surtout, ce qui est très positif, c'est effectivement l'engagement des jeunes qu'on peut voir aujourd'hui sur différents modes d'action. Alors, il y a celui-là ou d'autres. Et effectivement, l'engagement de chacun, et notamment de la jeunesse, est clé pour amorcer des changements, que ce soit sur l'environnement ou sur le social.
Avant de parler du festival alimentaire, on aurait pu citer une autre actualité. C'est donc le Parlement européen qui, dans sa session plénière cette semaine, il est question donc de déclarer l'urgence climatique en Europe. Il y a eu de nombreuses interventions, entre autres de Pascal Canfin, qui est donc président de la Commission environnement pour le Parlement européen, qui a cité comme chiffre de passer non pas de 40% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, mais de 50 à 55%. Alors, on va parler maintenant du festival alimentaire. Marie Prinet, c'est vous qui allez être à la manœuvre. Présentez-nous ce festival. Qu'est-ce que c'est que ce festival international et qui n'en est pas à sa première édition?
Oui, alors le festival alimentaire, il est né en 2007 dans un cinéma parisien. Ce qui est important de dire, c'est que c'est un festival national, voire aussi international. Alors, qui est coordonné par, ça peut faire un peu long, mais c'est important de le dire, le Comité français pour la solidarité internationale, qui à la fois coordonne le festival alimentaire, mais à la fois fait des actions de plaidoyer, c'est-à-dire des études qui peuvent nourrir les thématiques abordées dans le festival alimentaire. Donc, alimentaire, il y a le festival qui se déroule du 15 octobre au 30 novembre chaque année partout en France. Mais juste deux mots avant, alimentaire, c'est aussi un réseau. Et je voudrais juste dire quelques objectifs clés quand même qui permettent un peu mieux de comprendre cette campagne. Le but du réseau alimentaire, c'est de fédérer les membres et les mettre en réseau sur les territoires avec les acteurs de l'alimentation. Là est le rôle des coordinations régionales telles que le Crozet Occitanie qui coordonne le festival alimentaire en région. Mais c'est aussi créer et accompagner la mise en œuvre d'espaces de débat et d'actions de sensibilisation pour que les citoyens prennent conscience des enjeux qui permettent ou non l'accès à une alimentation saine et suffisante pour tous et partout. Donc là, c'est vraiment notre rôle aussi, hein, quelle action de pédagogie on a pour sensibiliser. Mais c'est aussi former sur les enjeux alimentaires mondiaux Donc là, par exemple, un exemple concret, on a organisé une formation avec la Fédération Artisans du Monde, qui est partenaire officiel du Festival Alimentaire. Artisans du Monde fait du commerce équitable. Et à l'Université du Mirail à Toulouse, on a organisé une formation autour de deux films, Cacao et Quinoa, sur les filières.
Dont on parlera un peu plus tard dans l'émission.
Voilà. Et puis, dernière chose, alimentaire, c'est aussi valoriser les initiatives alimentaires durables et responsables pour favoriser l'engagement citoyen pour une alimentation durable. Ce qui est important de dire, c'est que il y a alimentaire, il y a le festival de films, et puis derrière, c'est on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi on va encourager le changement de pratique, et donc alimentaire avec le prix alimentaire. Peut-être que j'aurai l'espace alors, pour en parler plus
si
tard.
Si vous deviez juste revenir un tout petit peu en arrière, parce que pour vous, tous ces mots et tous ces objectifs signifient quelque chose, mais si vous prenez les auditeurs qui sont pas habitués, quel est le lien entre ce qu'on mange dans notre assiette et ce dont on parlait avant, c'est-à-dire la question du réchauffement climatique et les questions sociales aussi que cela implique, on reviendra plus tard. Comment vous pouvez faire le lien, tout simplement ?
Alors, je ne suis pas non plus une experte, ça, voilà. Mais ce qui est important de dire, c'est que nous, avec Alimentaire, c'est qu'on montre les interdépendances mondiales. Ce que je fais ici a un impact ailleurs. Quand la question du consommer local, elle est importante, mais on peut aussi s'interroger sur je vais acheter des bananes, est-ce qu'elles proviennent du commerce équitable, etc. Donc, voilà. Et avec le changement climatique, forcément que ça pose question avec le déplacement des populations. Donc, ça pose question sur comment les habitants peuvent... comment chacun peut vivre sur ces terres et se nourrir, alimentaire, c'est vraiment se dire aussi, exemple, l'Afrique a les terres pour se nourrir, quoi. Donc c'est se dire comment sur un territoire on peut produire, on peut vivre dignement aussi de son travail.
Alors le Festival Alimentaire, c'est donc, si on revient au festival, c'est donc un festival qui propose 8 documentaires qui sont diffusés, donc c'est quoi, c'est un peu partout dans le monde, c'est surtout en Europe ?
Alors ouais, alors, je suis pas experte de l'international en Europe, mais en Afrique également. Et c'est vrai que c'est surtout quand même en France, c'est énormément d'organisateurs. Et ce qui est important de dire quand même dans l'alimentaire, c'est qu'il y a des partenaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul, il n'y a pas Paris, la structure dont je parlais, et les coordinations régionales. Il y a le réseau Biocop, le réseau CCF des Terres Solidaires, où Jacques Millot est là, Artisans du Monde. Donc voilà, on a plein de réseaux. On a aussi des nouveaux partenaires tels que les CPIE, Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement. Donc c'est aussi comment nous, acteurs de solidarité internationale, on rejoint des acteurs du consommer local et comment on fait des passerelles entre les deux.
Alors donc il y a à peu près 70 000 personnes qui sont impactées, des milliers d'événements dans 600 communes sont organisés, donc des projections ou des rencontres, tout type de rencontres, y compris avec les milieux scolaires. Les films, donc on va mettre un coup de zoom sur deux films, Cacao, enfants pris au piège, on va dire la chaîne alimentaire du cacao et notre responsabilité environnementale et sociale, et Quinoa, prenez-en de la graine. On va faire une première pause et puis on va passer des extraits de ces films et les commenter.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur le festival alimentaire, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce festival donc de cinéma qui a cours un peu partout dans le monde, en Europe, après surtout en France. Vous nous disiez dans la première partie du 15 octobre au 30 novembre, travailler à nous sensibiliser à ce que nous mangeons et à ce que cela implique comme responsabilité, on va dire, éthique. Autour du plateau, pour nous en parler, Marie Prinet, qui est chargée de mission pour le CROSI, collectif régional des organisations de solidarité internationale Occitanie, Jacques Miot, membre du CCF des Terres Solidaires, et Estelle Ekman, responsable de projet pour Ressources Humaines Sans Frontières. Nous rejoindra un peu plus tard d'autres invités, on les citera quand ils seront là. On va commencer par se pencher sur un de ces films, quoi de mieux que de les écouter et d'essayer de rentrer dedans, entre autres pour tous ceux qui peut-être ne pourront pas participer à ce festival. Le premier film qu'on a choisi, c'est Quinoa, prenez-en de la graine. C'est un film qui a été donc diffusé sur France 5, documentaire qui explique donc l'explosion de la consommation du quinoa et toutes ses implications. On va commencer par écouter un extrait, c'est au tout début de ce documentaire qui rappelle les propriétés extraordinaires du quinoa et entre autres les raisons ou la genèse de son explosion, l'explosion de sa consommation de par le monde.
Le quinoa renferme des propriétés nutritives exceptionnelles. Ces graines sont riches en protéines. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels pour le corps. Beaucoup de fer, de phosphore, de magnésium et de la vitamine B2. Une sorte de super aliment qui est resté dans l'anonymat pendant des siècles. Mais en 2013, son destin a basculé lorsqu'il a reçu le soutien d'une des organisations les plus puissantes du monde. 20 février, au Palais des Nations Unies à New York, la FAO, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, décrète l'année internationale du quinoa.
Voilà, ça c'est le début, donc enfin c'est pas tout à fait le début de ce documentaire, Quinoa, prenez-en de la graine. Ça raconte donc ce documentaire, l'épopée du quinoa. Ce documentaire commence par une séquence tout simplement où on voit une famille française se régaler de manger du quinoa, trouvant cela délicieux, la mère de famille se réjouissant de ses propriétés nutritives, on vient de l'entendre. Il faut dire en introduction donc que le quinoa, c'est ce que rappelle ce documentaire, sa consommation a explosé, entre autres depuis donc février 2013. Aujourd'hui, c'est 5000 tonnes production et consommation par an. C'est deux fois plus qu'en 2012. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Jacques Miot, sur l'explosion de la consommation du quinoa? Que faut-il avoir en tête?
Moi, je pense qu'il faut d'abord revenir sur le passé. La quinoa, c'est l'alimentation de base des Indiens de l'altiplano de Bolivie et du Pérou. Et on va reparler du Pérou après. Et c'est l'alimentation qu'on pourrait comparer aujourd'hui à notre blé pendant des siècles en France. Et cette quinoa, elle a toujours été cultivée en haute altitude, sur les hauts plateaux de ces pays-là, au-dessus de 3000 mètres d'altitude. C'est une plante qui fait partie de la famille des épinards et qui a des vertus, effectivement, comme le rappelait le début du film, là, nutritives excellentes.
La famille des épinards.
Oui, tout à fait.
Dites donc, je ne savais pas qu'il y avait une famille des épinards.
Oui, mais c'est une grande famille d'ailleurs de plantes cultivées, dont fait partie aussi le sarrasin, entre autres. Et donc, cette quinoa, pendant des siècles, a servi d'alimentation de base, encore une fois, à ces populations des plateaux andins, et ça a fait en particulier la ressource essentielle pour leur alimentation. Et depuis très peu de temps, donc quand on dit cette explosion, il faut bien se rendre compte que c'est très récent, 2013, c'était hier. Et donc, il y a des importateurs français en particulier qui sont très bien montrés dans le début du film. Moi, que j'ai eu l'occasion de présenter à pas mal de centaines d'étudiants dans les lycées de la région ici ces derniers jours et ces dernières semaines, ils se reconnaîtront. Et donc, cette plante a tout d'un coup, cet importateur français qui vit en Ardèche a monté une usine de transformation de cette quinoa pour la diffuser en France et en Europe en particulier. Il est devenu à cette époque-là, dans les années 2013, le premier importateur européen de cette quinoa.
Est-ce que vous pouvez rappeler, juste Jacques Miot, pourquoi la FAO a décidé en 2013 de mettre le quinoa sur le devant de la scène?
Parce que justement, cette graine...
Pour des bonnes
raisons. Oui, oui, il y avait des propriétés tout à fait nutritives excellentes, qui contient beaucoup de vitamines, de protéines, d'amidon, etc. Donc c'est une plante qui avait des vertus nutritives, d'ailleurs qui étaient confirmées depuis, encore une fois, des siècles, consommées par ces populations. Et donc, tout d'un coup, ils ont, avec l'ouverture des frontières et la mondialisation, il y a des importateurs en Europe, et en France en particulier, qui se sont dit que peut-être c'était une plante à promouvoir, et ça a fait tache d'huile, si bien que l'ONU s'en est emparé pour faire une campagne internationale sur cette plante.
Et entre autres, donc en visant donc à une santé plus saine à l'échelle de la planète et à l'éradication de la faim dans le monde. C'est alors, vu un peu comme une plante un peu
oui,
miracle.
Oui, alors discours un peu, je pense qu'il faut absolument relativiser parce que c'est pas la quinoa qui résoudra la faim dans le monde, mais loin de là. Ce CFD est bien placé pour travailler là-dessus depuis des décennies. Donc c'est pas l'objet du.
En tout cas, c'est comme ça que c'était présenté par la FAO.
Oui, mais je pense que c'est tendancieux et c'est pas la réalité des choses. Je suis désolé de le dire. Et donc, la quinoa, les importateurs l'ont promue en Europe. Je ne citerai pas son nom parce que je ne veux pas faire de publicité, mais c'est un importateur français qu'on voit très bien dans le film. Il a monté une usine en Ardèche pour transformer cette quinoa en des tas de produits au petit déjeuner, en purée, en pâte, enfin en farine, etc. Enfin, c'est devenu une espèce de mode, et d'ailleurs ça continue aujourd'hui en Europe, et en France en particulier. Et donc ces 5000 tonnes dont on parle dans le film, aujourd'hui, il faut quand même relativiser les choses, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir en quantité avec ce qu'on consomme comme céréales en Europe. Enfin, je veux dire, la France produit à la louche 36 millions de tonnes de blé par an. Enfin, je veux dire, il faut quand même avoir un peu la notion des chiffres de temps en temps, et retomber les pieds sur terre. Et depuis, cette quinoa a fait tache d'huile. Alors, il y a des petits malins qui avaient sûrement des capitaux à investir, en particulier au Pérou. C'est ce qu'on voit dans la deuxième partie du film, qui ont senti un filon pour gagner beaucoup d'argent. Et un riche péruvien s'est mis à essayer de cultiver de la quinoa, non pas dans l'altiplano, mais cette fois-ci à des altitudes beaucoup plus basses, dans des plaines du Pérou, à moins de 900 mètres d'altitude. Et tout d'un coup, il s'est mis à lui-même, parce qu'il avait de l'argent sûrement à investir, à cultiver des champs, mais pas du tout de la façon des Incas. Cette fois-ci, de façon très industrielle. Et non, peut-être, on y reviendra tout à l'heure.
Alors, on va y
pour
venir.
Donner les conséquences de cette catastrophe écologique. J'emploie le mot exprès.
On va écouter justement un deuxième extrait, déjà pour donner la parole un peu aux acteurs. Ce sont des paysans boliviens qui ont vu leur vie, on va dire, améliorée grâce à l'explosion de la consommation du quinoa, mais qui ont vite déchanté puisque la concurrence est devenue rapidement très rude, faisant chuter les cours. Et en 2014, donc, le film rappelait qu'après une période euphorique, le quinoa est repassé sous une barre, on va dire, de prix qui met les paysans en difficulté. On écoute cet extrait.
Grâce à l'augmentation de la consommation, il y a eu de nombreux changements. Regardez, rien que nos habitations se sont améliorées.
Les maisons en briques remplacent petit à petit la terre cuite. Les villages se modernisent. Certains ont désormais leur propre terrain de basket. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, cette belle aventure est probablement en train de s'arrêter. Pour s'en rendre compte, il faut aller à Chayapata, où se fixe le prix du quinoa.
12, 14, 16 kilos.
Ce marché est l'un des plus grands du pays. Des centaines de milliers d'euros transitent sur ce terrain vague chaque week-end. Mais pour ces producteurs indépendants, le cœur n'y est plus.
Ce n'est plus rentable de travailler le quinoa. Ça ne suffit plus pour vivre.
Les prix ont chuté. La tonne est repassée sous la barre des 2000 euros. Car un nouvel acteur a fait une entrée fracassante en cassant les prix.
Voilà, et ce nouvel acteur, c'est le Pérou, pays voisin, qui a trouvé à produire ce quinoa à des prix bien inférieurs. On rentre pas forcément dans le détail, mais ça a suffi à compliquer la vie de ces paysans. Alors avant qu'on sente complètement défleurer le film, qu'on donne un peu la suite de l'histoire, Marie Prinet, vous vouliez nous dire en fait quel est l'objet de la diffusion de ce film et quelle problématique vous souhaitez souligner.
Juste quelques mots sur ce film. Ce film, il souligne, il a vraiment une approche agro-économique et géopolitique, et il nous permet de, en comprenant du coup le fonctionnement de la filière quinoa, on prend vraiment conscience des dérives dues à l'industrialisation et puis la commercialisation de masse, et qui ont abouti à transformer génétiquement cette graine. Donc ça pose la question, et d'ailleurs tous les films du Festival Alimentaire, c'est cette question cette année, c'est autour du consommer local. La consommer local, une solution. Puis ça, la question qui se pose aussi, c'est se dire cette plante, elle est à l'origine robuste, et puis qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc
Jacques Millot, puisque donc elle est génétiquement modifiée, ou pour qu'elle soit moins chère et qu'elle alimente tous nos marchés, derrière il y a des incidences écologiques et sociales importantes.
Tout à fait. Donc dans le film, on voit très bien que l'industriel péruvien qui a profité de cette occasion de la montée des prix qui avait été due d'abord au départ par les paysans boliviens qui avaient produit un peu plus que d'habitude parce que le climat le permettait à ce moment-là, il y a quelques années, et très vite le climat s'est retourné contre eux. Cet industriel péruvien a mis au point des variétés qu'il a fait lui-même sélectionner dans ses laboratoires. Preuve qu'il devait avoir beaucoup de moyens, financiers en tout cas, pour pouvoir sélectionner des variétés qui étaient adaptées à un autre climat, donc beaucoup plus en basse altitude, pour pouvoir industrialiser cette plante et produire de façon mécanique beaucoup plus importante, et donc profiter de cette vague d'exportation, en particulier vers l'Europe. Et donc le problème, c'est qu'il avait oublié un détail très important, c'est qu'en changeant le mode de culture de cette plante en basse altitude, très vite, alors que ça n'était pas le cas en haute altitude, ces plantes se sont fait ravager par des insectes, tout simplement parce qu'elles avaient perdu une couche protectrice qu'on appelle la saponine, qui protégeait cette graine depuis des siècles d'ailleurs en haute altitude. Et donc en transformant génétiquement cette plante, il avait pensé, ce qu'il a fait d'ailleurs au début, gagner beaucoup d'argent, sauf que très vite, ces exportations ont commencé à chuter parce que les résidus de produits insecticides que ces cultivateurs avaient répandus sur ces plantes ont été refusés, en particulier à l'exportation par les États-Unis, ce qui a provoqué très vite la chute des cours, et évidemment un retournement de la conjoncture très très rapide et très important vis-à-vis de ces paysans qui s'étaient mis à cultiver sur cette espérance de gagner beaucoup d'argent.
Alors, Jacques Millot,
encore une fois, l'industrie.
Quelle conclusion en tirer pour les consommateurs que nous sommes, ceux qui achètent du quinoa, qui apprécient cet aliment, est-ce à dire qu'il faut arrêter de consommer du quinoa, ou au contraire qu'il faut l'acheter avec certaines conditions, et si oui, lesquelles?
Ah ben là, maintenant, la réponse est simple. Marie en parlait tout à l'heure. Artisans du Monde, on va encore en faire de la pub, hein, à Toulouse, mais dans d'autres magasins de France, vend la quinoa qui est celle de l'Altiplano. Ma femme en a acheté hier
dans
le magasin du Monde. Et donc, cette quinoa, elle s'appelle, qui vient de Bolivie, c'est la quinoa réale, qui est très bien décrite dans le film, et qui est cultivée de façon ancestrale, et qui est surtout indemne de tout pesticide et de traitement. Donc, c'est une quinoa bio. Et donc,
alors, comment on fait pour reconnaître tout simplement? Il faut être attentif dans le magasin, quelle est la provenance et les labels, c'est ça?
Labellisé. Moi, j'ai lu en détail toute étiquette hier en rentrant, quand ma femme est rentrée de ce magasin, et effectivement, c'est très bien indiqué. Et il n'y a aucun doute, il y a une certification qui est suivie et qui est surtout contrôlée par des organismes certificateurs. Et ça, c'est très important pour les consommateurs de vérifier ça.
Et si on va jusqu'au bout du coup de la prescription, quels sont les labels qu'il faut retrouver pour se dire que le quinoa qu'on achète est acheté à un prix correct et cultivé dans des conditions, correctes?
Tous les produits du commerce équitable, donc dont se fait la promotion les magasins Artisans du Monde, il y a sorti un deuxième label qui est plus sévère encore. Alors c'est un jeu de mots, hein, qui n'est pas facile à l'oreille à retenir, c'est étiquable. C'est-à-dire c'est une société qui importe, alors je ne sais pas si elle importe de la quinoa, en tout cas elle importe du café et du cacao, dont on reparlera après, des pays andins en particulier, qui est basée dans le Gers et qui fait la promotion en particulier de ces produits bio, cultivés de façon bio, et surtout dont le prix et rémunérateur pour les paysans qui cultivent ces produits. Et ça, c'est très important aujourd'hui de pouvoir être sûr de la filière et de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de transformation de ces produits pour les consommateurs français, entre autres, mais pas seulement.
On va faire une deuxième pause. Le festival alimentaire, c'est donc du 15 octobre au 30 novembre. 8 films à l'affiche. Il n'y a pas que quinoa, prenez-en de la graine. On va entre autres parler après la pause de cacao, enfant pris au piège. Juste Marie Prinet, si vous deviez donner deux dates de prochaine projection de ces films avant cette pause, ça serait où et quand ?
Alors effectivement, il reste encore des dates, donc il faut se dépêcher jusqu'au 30 novembre. Le 28 novembre, Burkinabé Bounty à Toulouse avec l'association Ygraine Occitanie à 18h30, chemin de la Pujade. Le 28 novembre également, un autre film, Elle sème le monde de demain à Auzeville-Tolosane à l'ENSAT avec Ingénieurs sans frontières. Voilà, deux dates à Toulouse, la même date, il faut juste choisir le film.
On en citera d'autres après la pause. On fait une deuxième pause et on vous retrouve pour parler donc de Cacao Enfant pris au piège, d'un document d'envoyé spécial et c'est un documentaire qui fait mal.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur le festival alimentaire, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Coup de zoom donc sur ce festival qui projette donc aux quatre coins de la France entre autres 8 films documentaires du 15 octobre au 30 novembre pour nous sensibiliser sur ce que nous mangeons dans nos assiettes et sur notre responsabilité à l'égard, on va dire, des autres qui parfois habitent fort loin et à l'égard de la planète. Autour du plateau, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, Marie Prinet, chargée de mission pour le CROSI, collectif régional des organisations de solidarité internationale Occitanie, Jacques Miau, membre du CCFD Terre Solidaire Haute-Garonne, Estelle Ekman, responsable de projet pour Ressources Humaines Sans Frontières, on va vous donner la parole, et puis nous a rejoint Maïlis Loiseau, chargée de développement pour OECO Crédit Méditerranée. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On devait avoir Monsieur Kerfala Camara, parce qu'il faut dire aussi que ce festival fait intervenir, on va dire, des grandes figures, et c'en est une, mais la liaison est compliquée, ce sera donc pour une prochaine fois. On va parler d'un autre film et d'un autre sujet aussi, fort grave. Ce film, c'est Cacao, enfant pris au piège. C'est un extrait d'un envoyé spécial que l'on va écouter maintenant, donc diffusé sur France 2. Le sujet du cacao, on aime tous le chocolat, mais on sait peu ce que le cacao cache, et souvent il cache des choses bien difficiles. On écoute un premier extrait de ce documentaire.
Le salon du chocolat. On y vient le cœur léger, célébrer l'addiction, super, déguster du chocolat gratuitement ou acheter des raretés hors de prix. Tout le monde est là, de l'artisan à la multinationale. Mais dans un coin du salon, il y a une surprise. L'industrie a fait une petite place à une ONG qui ne mâche pas ses mots.
Si vous avez mangé du cacao beaucoup dans les 20 dernières années, vous avez vous-même mangé du travail des enfants, de l'esclavage. Ils travaillent dans le pire forme de travail des enfants, c'est-à-dire des produits chimiques très dangereux, des machettes, des poids très lourds.
Les industriels se sont mis en tête de prouver qu'ils voulaient aussi sauver la planète et garder les mains propres. Et surtout, qu'ils n'avaient plus rien à cacher.
Les industriels ne sont absolument plus dans le déni. La déforestation, le travail des enfants dans les plantations, tout ça, c'est des choses dont on parle et dont ils sont tout à fait conscients. Et je vous assure qu'ils donnent aussi vraiment du mal.
Comment s'appliquent ces bonnes intentions? Et à quoi ressemble le droit chemin quand on prend vraiment la route?
Voilà, alors ça c'est le début du documentaire. Quand on n'est pas très averti sur le sujet, on se prend une sacrée claque entre le salon du chocolat, quand on voit une femme fort jolie qui vous explique très doctement et très calmement qu'en mangeant du chocolat, vous avez participé au travail forcé des enfants. Évidemment, ça vous fait froid dans le dos. On va rester sur la présentation générale de cette interpellation très vigoureuse de ce documentaire. Marie Prinet, qu'est-ce que vous pourriez préciser sur ce film Coup de poing?
Alors déjà, comme vous le disiez, c'est vraiment un film vraiment violent, et quand on le termine, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc peut-être rappeler quelques éléments. Il y a 40% du cacao qu'on consomme qui vient du coup de Côte d'Ivoire, et dans ce film,
premier producteur donc au monde de cacao.
Tout à fait. Et dans ce film, on voit l'inaction des multinationales par rapport à cette production, par rapport au cacao. Pourtant, il y avait le respect vis-à-vis de l'élimination du travail des enfants. C'était avant 2006, mais on voit que du coup, il y a des gros soucis à ce niveau-là.
Vous voulez dire qu'en 2006, il y avait eu un engagement des principaux fabricants de chocolat pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une traçabilité en fait, du travail, c'est ça?
Vis-à-vis notamment des ONG, peut-être que Estelle t'aura des éléments. Mais en tout cas, juste dire, ce film-là, il interroge vraiment les moyens possibles pour permettre une meilleure rémunération des paysans du Sud, notamment avec la problématique et le commerce équitable. Alimentaire, c'est vraiment cette problématique-là aussi, c'est comment mieux rémunérer les paysans. Et puis, les questions qui soulèvent, c'est la question du boycott, quel levier pour agir. Estelle aura sûrement des éléments à ce niveau-là. Et puis, vraiment, l'idée de la traçabilité, quoi. C'est vrai que ce film, il nous étonne, parce qu'on se dit, en fait, ce que je mange, même si je prends du équitable, est-ce que, quelle traçabilité? Alors, Artisans du Monde nous rassure lors de la formation qu'ils ont fait. Il y a quand même une plus-value dans le commerce équitable, même si on sait très bien qu'on ne peut pas forcément tout savoir. Et c'est vrai que ce film, il est
pose
pas
des questions. Alors le commerce équitable, on va essayer, on y reviendra au commerce équitable. Je préfère qu'on reste d'abord sur les grandes considérations et interpellations de ce film. Estelle Ekman, c'est l'occasion de rappeler que derrière ces questions posées par le Festival Alimentaire, il n'y a pas que des enjeux écologiques. Logique, même si on l'a vu à l'occasion du quinoa. Derrière, comme le dit le pape François dans la date aussi, tout est lié. Ce sont aussi des questions sociales, je ne sais pas comment vous les appelez. Expliquez-nous cette mention, ce lien fondamental.
Oui, effectivement, c'est ça, c'est des questions sociales. Alors, quand on parle de conditions de travail, c'est des questions sociales. Oui, effectivement, ces deux questions sont étroitement liées, environnement et social. On parlait en ouverture de cette émission des changements climatiques. Typiquement, les changements climatiques et toute détérioration d'ailleurs de l'environnement, qui peut être liée aussi aux méthodes agricoles intensives, tout ça, ça a un impact sur des migrations. C'est-à-dire, ça va créer des migrations. Si demain, alors nous, on l'a vu par exemple en Malaisie, des paysans qui se retrouvent avec une terre appauvrie, qui ne peuvent plus cultiver leur terre, et ben demain, ils vont être contraints du coup de migrer pour aller trouver du travail ailleurs, parce qu'ils ne sont plus capables de. Et à partir de là, on a des risques très élevés dans ces migrations-là de travail des enfants et de travail forcé.
Alors,
et c'est...
Prenez l'exemple dans ces cas-là de ce film-là, Cacao, enfant pris au piège.
Oui, alors le cacao appauvrit les sols. En plus, on voit dans ce film, on voit très bien aussi comment le boom du cacao, qui est lié à la demande croissante mondiale, a pu entraîner des méthodes assez violentes de déforestation.
90%, et des chiffres absolument renversants, 90% des forêts de Côte d'Ivoire
ont été... Oui, tout à fait. Alors, c'est une catastrophe écologique, mais effectivement, ça a aussi un impact sur toutes les populations qui pouvaient vivre de ces forêts, et toutes les populations qui pouvaient vivre aussi de cultures vivrières tout autour, et qui sont obligées par le développement, le boom de la culture du cacao, qui est aussi poussée par des instances internationales, par le gouvernement. Ces populations sont poussées à faire un choix. Est-ce que je travaille dans le cacao, ou est-ce que, du coup, étant privé de mes moyens de subsistance, je déménage, je pars chercher une meilleure vie ailleurs.
Alors ça, c'est un premier aspect. Et puis, venez-en au travail des enfants, parce qu'on découvre qu'en Côte d'Ivoire a lieu un commerce humain, on appelle ça de la traite humaine. Des enfants burkinabés arrivent par car et se transforment en fait en esclaves. Alors c'est pas le cas probablement dans tous les lieux de production, envoyé spécial, mais le doigt sur certains lieux précis. Vous pouvez nous dire, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui sont ces enfants esclaves?
Oui, alors ce qu'on voit effectivement dans ce film, c'est la situation assez particulière d'enfants notamment burkinabés, donc d'enfants voisins, et c'est particulièrement le cas au Burkina Faso, qui sont vendus par leur famille, ou voire kidnappés, pour être ensuite utilisés sur les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Alors quand ils sont vendus, on a du mal souvent à imaginer une famille...
300 euros pour 3 ans de travail,
voilà.
C'est le tarif.
Oui, et donc effectivement, c'est horrifiant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ces familles en arrivent là, à vendre leur enfant, c'est parce qu'on leur promet aussi que cet enfant va être formé, va être scolarisé. Et donc en fait, on leur promet une vie meilleure pour leur enfant. Et la réalité, une fois en Côte d'Ivoire, évidemment, est très très différente.
On va écouter un deuxième extrait. Le journaliste d'Envoyé spécial va jusqu'à rencontrer un des géants du cacao qui n'est pas connu, qui s'appelle Cargill, qui achète le cacao et après le redistribue à toutes les marques que l'on connaît et que l'on retrouve dans nos supermarchés. Et puis pour se donner un peu de baume au cœur, après on essaiera de voir aussi ce que l'on peut faire après cette prix, ce coup de poing en plein ventre. Deuxième extrait, donc c'est le journaliste discute avec le vice-président de Cargill Europe, si je ne me souviens bien. Et on entend la réponse, en tout cas une des réponses de ces derniers.
Je ne veux pas vous affirmer que dans toute notre filière, tout se passe comme dans la meilleure des mondes.
Mais
tout
ce là, que je veux dire, c'est vraiment de l'endroit qui est le pire.
C'est clair qu'on n'est pas parfait. Je ne veux pas vous dire qu'on est parfait, qu'on a trouvé la solution idéale. La déforestation, pour nous, c'est un problème capital. Parce que sans forêt, on n'a pas de pluie. Si on n'a pas de pluie, on n'a pas de cacaoyer. Si on n'a pas de cacaoyer, on n'a pas de fèves, on n'a pas de chocolat.
Non, mais c'est magnifique ce que vous me dites là. Et en même temps, vous faites du business dans un des endroits qui a été le plus déforesté de l'Afrique de l'Ouest.
Oui. La déforestation en Côte d'Ivoire, entre 1960 et 2010, qui est la date à laquelle...
90% de la forêt.
La date à laquelle nous sommes installés, en 2010, il y avait déjà 80% qui avaient été détruites. Mais ceci dit, il faut changer les choses. On n'est pas parfait, mais il faut continuer le combat.
Après l'interview, Cargill m'envoie un message ennuyé. Ils ont vérifié, c'est vrai, il n'y a pas encore de code-barre sur le cacao du Guindébé. mais il m'affirme que 99% des planteurs sont identifiés et qu'ils seront tous en règle dans un an au plus tard.
Alors Gouindébé, il faut le dire, donc c'est un revendeur de cacao en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial donc a mis le doigt sur ce revendeur pour lequel il n'y a pas de traçabilité de sa consommation. Alors on entend la réponse de Cargill. Il ne s'agit pas pour le moment de tomber dans la caricature, hein, qui dit que 99% de ce qu'ils achètent, pour eux, il y a une certaine traçabilité. Mais après avoir entendu ça, on peut légitimement avoir quelques suspicions sur la véracité de leurs propos. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qui peut être fait. Maëlys Loiseau, vous êtes chargée de développement pour OICO Crédit Méditerranée. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement OICO Crédit Méditerranée, nous expliquer ce que sur le cacao vous essayez de faire?
Alors, nous sommes une coopérative d'épargne solidaire, c'est-à-dire que nous permettons aux gens d'épargner en donnant un impact social à leur épargne, c'est-à-dire en pouvant tracer leur épargne de façon à ce qu'elle soit utile aux populations et particulièrement aux populations qui sont atteintes de grande pauvreté, tout en étant actifs. Les coopérateurs de cacao en Côte d'Ivoire, dont on entend parler durant tout ce film, sont strictement dans cette catégorie de la population, c'est-à-dire qu'ils travaillent, mais ils ne tirent pas un revenu décent de leur travail.
Alors qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour les accompagner, puisque vous avez eu des actions jusqu'auprès des populations citées dans ce documentaire, si je ne me trompe pas?
Oui, alors effectivement, un outil crucial pour les petits producteurs dans le monde, que ce soit dans le cacao, dans le café, etc., c'est les coopératives. C'est-à-dire que l'union fait la force et dans ces coopératives, il va y avoir un certain nombre d'outils, de formations, etc. qui vont être mises en place pour améliorer la vie des petits producteurs. Et nous leur apportons ces opportunités financières pour ces coopératives de façon à renforcer leurs pratiques.
Coopératives qui vont parfois jusqu'à payer un instituteur pour justement scolariser les enfants. En tout cas, on voit dans le documentaire un extrait avec un instituteur qui avoue qu'il n'est pas payé, enfin qui laisse entendre qu'il n'est pas payé par l'État et qu'heureusement que les producteurs se sont pris en main. Est-ce que vous allez jusqu'à soutenir de telles actions?
Oui, au travers de nos partenaires, une des coopératives que nous soutenons financièrement en Côte d'Ivoire en est à 10 écoles primaires réhabilitées ou construites, des latrines, des pompes hydrauliques et même un collège.
Maëlys Loiseau, légitimement, on peut se dire, la question, vous devez être habitué à la question, on peut se dire c'est si peu, mais pourquoi est-il important chacun de faire cette petite part? Un autre monde du chocolat est-il possible?
Je pense qu'effectivement c'est hyper important pour tout le monde en fait de s'impliquer. Ce reportage est révoltant et ça nous amène à nous questionner effectivement sur la prise de position qu'on prend au quotidien au travers de sa consommation par le commerce équitable, mais aussi du sens qu'on donne à son argent, à son épargne.
Jacques Millot, m'est venu en regardant ce documentaire, puisque vous êtes, vous représentez une association d'inspiration chrétienne autour du plateau. Ce que le pape François met en valeur depuis le début de son pontificat, c'est les fameux péchés écologiques. Alors péché, c'est un mot qui parle à plus beaucoup de monde aujourd'hui, mais on se dit qu'en fait on peut faire du mal sans s'en rendre compte, et tout d'un coup se retrouver avec sa barre de chocolat à minima dans les mains et se rendre compte qu'on est fautif, tout simplement.
Oui, moi je pense que le consommateur français a un rôle absolument considérable dans tout ce qu'on vient d'évoquer depuis le début de l'émission, que ce soit le cacao, la quinoa ou bien d'autres produits importés des pays du Sud. Hein. La banane, je pense en ce moment, fait aussi parler d'elle pour d'autres raisons, d'intoxication par des produits phytosanitaires. Je pense que le consommateur, tant qu'il n'a pas conscience et qu'il n'a pas découvert, alors ces deux films sont de très beaux exemples, et il y en a bien d'autres depuis des années sur les films alimentaires, sont de très beaux exemples pour montrer justement ce qu'on appelle, je vais faire la publicité là pour le bureau d'études Solagro, qui s'appelle le revers de notre assiette, c'est-à-dire que tous les produits importés qui rentrent dans la composition des produits qu'on trouve aujourd'hui de façon démentielle dans les supermarchés, on ne se rend pas compte effectivement des conditions dans lesquelles ça a été produit, ça a été commercialisé, ça a été transformé, ça a été vendu, et en particulier je trouve l'exemple de la société Cargill là, qui est montrée dans le cacao absolument sidérant, à la fois dans les extraits qu'on a entendus tout à l'heure, mais aussi aussi de façon plus large. Cargill, c'est un des plus gros importateurs et de commerce mondial de graines, enfin de graines de céréales. Donc c'est une société qui existe depuis des décennies. C'est une multinationale géante. Enfin, les gens se rendent pas compte. C'est d'une puissance absolument considérable. Et donc je fais là de la pub pour le CCFD et pas que pour le CCFD. Il y a en ce moment une campagne qui s'appelle Stop Impunité, où on demande effectivement à toutes, et qu'on fait signer dans toute la France, qui demande à toutes les multinationales de déclarer. Et la loi française l'impose depuis 2007, hein, c'est pas un truc comme ça en l'air, c'est de déclarer toutes leurs filiales et toutes les façons dont leurs filiales elles les utilisent pour justement cacher leur côté pervers d'exploitation des enfants, d'utilisation des paradis fiscaux, de ne pas respecter les droits syndicaux, etc., etc. Toutes choses qui sont dénoncées depuis des décennies par toutes les ONG de solidarité internationale et qui sont aujourd'hui inacceptables et qui ne sont plus acceptées par le grand public. Encore faut-il qu'on soit soi-même dans notre consommation quotidienne conscient des actes de consommation qu'on pose tous les jours.
Voilà, on sent votre colère, mais elle est bien légitime. Stop Impunité, c'est donc une pétition à signer. Et puis, la bonne nouvelle, quand même, hein, il faut aussi souligner ces bonnes nouvelles pour ne pas décourager nos auditeurs. C'est que donc, on peut agir chacun à son échelle. Et c'est la grande vertu de ce festival de nous le rappeler. Donc, du 15 octobre au 30 novembre, le festival alimentaire. Marie Prinet, donnez-nous trois autres rendez-vous pour finir cette émission.
Oui, alors en fait, il y en a plus que trois, mais vous les retrouvez tous sur le site du Festival Alimentaire, dans l'Aveyron, Saint-Afrique, 20h, organisé par la Biocoop au Café Associatif le lieu-dit, à Millau, 18h30, les dépossédés, 28 novembre, donc ça c'est le 27 novembre à Millau, le 28 novembre à Rodez, avec Faut-il arrêter de manger des animaux.
Allez, donnez-en deux autres, parce que là vous avez donné que l'Aveyron.
Et dans le Gers, Auch, le lycée agricole de Beaulieu, qui ouvre ses portes à 20h30 le 26 novembre, et puis... deux autres encore à Albi le 28 novembre au ciné de la scène nationale. C'est intéressant parce que c'est le film Les Dépossédés et c'est les Master 2 de l'université d'Albi qui organisent cette séance à 18h30. À Moissac le 27 novembre, Assemblée Cinétoyenne au ciné Le Concorde et c'est aussi Faut-il arrêter de manger des animaux, c'est à 20h.
Voilà, vous retrouvez toutes les dates sur le Festival Alimentaire. Et puis pour reprendre un autre grand mouvement citoyen qui travaille à une sensibilisation sur, on va dire, sur notre responsabilité écologique et sociale et sur ce qu'on peut faire, soyons tous des petits colibris. Merci beaucoup d'être venu ce matin venu parler du Festival Alimentaire. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.